L'amour impossible, deuxième partie. Chapitre 1. La comtesse d'Anglure. Caroline de Vaucernay, comtesse d'Anglure par mariage, était une des plus jeunes et des plus riches maîtresses de maison qu'il y eut alors dans la haute société de Paris. Élevée en province, au fond de la Picardie, par une vieille tante qu'il avait mariée au comte d'Anglure avant qu'elle eût atteint sa 16e année, elle avait consolé la bonne compagnie de la grande éclipse de Madame de Gèvres en ouvrant son salon presque à la même heure où la marquise fermait le sien. On trouva chez la comtesse d'Anglure la même élégance, le même goût et à peu près le même monde que chez Madame de Gèvres. Seulement, celle qui faisait les honneurs de ce salon ne ressemblait en rien à Bérengère. Elle n'en avait ni la beauté mate et arrêtée, ni la coquetterie toujours sous les armes, ni cette parole brillante et hardie qui faisait croire, bien à tort, que la marquise était méchante. À tous les poltrons qui ont peur des esprits, mais qui donnait au cerveau de ceux qui en ont l'excitation fécondante, sans laquelle on ne saurait causer avec plaisir et avec entrain. Non, Madame d'Anglure n'avait rien de tout cela. Mais pour ceux qui prosternent tout devant l'inexprimable magie de la jeunesse, le changement consolait de la perte, et l'on pouvait sans ingratitude stupide se dispenser d'avoir des regrets. Que l'on se figure en effet tout ce que les peintres ont jamais inventé de plus printanier et de plus suave pour donner une idée de la jeunesse, et l'on n'aura qu'une faible image de ce qu'était Caroline d'Anglure quand elle arriva à Paris. Toutes les femmes de 16 ans ont l'air jeunes, mais ce qui attirait si vivement en elle n'était point cette floraison fugitive, cet entr'ouvrement mystérieux de roses blanches qui, sous la force de la vie, déchire l'enveloppe de son bouton et qui s'épanouit au front de toutes les virginités pubères. C'était quelque chose de plus fraîchement idéal encore, quelque chose de supérieur à la beauté même, rayon impalpable et divin qui se jouait autour de cette forme déliée, mignonne et blanche, que le comte d'Anglure avait prise un matin dans sa mante, comme dit la chanson espagnole, et avait apportée, comme une difficulté à vaincre, aux plus habiles couturières de Paris. Rien, de fait, ne dut être plus difficile que d'habiller Caroline. La délicatesse inouïe de toute sa personne alourdissait les plus légers tissus, comme la lumière nacrée de son teint en éteignait les couleurs. Jusqu'aux fleurs pesaient sur ce front candide. Elle eût rappelé les filles d'Ossian, ces belles rêveuses couchées, sans les faire plier, sur des nuages, si une fraîcheur aussi exquise que la sienne avait pu durer 2 jours sans se faner dans les brouillards. Ce genre de beauté parfaitement inconnue à Paris, où les jeunes filles naissent flétries et épuisent ces nombreuses nuances de jaune qu'Allaire seul put exprimer par 18 mots distincts en allemand, eut un succès fou. Le succès du rare et de l'étrange, le grand succès chez les sociétés avancées qui sont arrivées au bout de tous les ordres de sensations. Les femmes, qui eurent la douleur de le voir et de le constater, sourirent en prévoyant combien serait court un triomphe dû à des qualités plus fragiles que la beauté même. À leurs yeux, sceptiques pour tout ce qui n'est pas leur miroir, Caroline d'Anglure était à peine jolie. Ce n'était qu'une blonde bien blanche. Mais toutes les blondes ne le sont-elles pas? Comme les artistes, qui, plus francs ou plus sensibles aux effets de la couleur, étaient fanatiques de l'éclat limpide et doux qu'épandait la fraîcheur pâle de la comtesse, elle ne voyait pas que tout en cet adorable enfant s'arrêtait timidement à la nuance, depuis le rose indécis de la bouche jusqu'aux larges prunelles gris de perles de ses beaux yeux, depuis les reflets bronzés de ses cheveux tordus sur sa tête, jusqu'aux gouttes d'or fluides dans lesquelles l'extrémité de ses longues paupières semblait avoir été trempée par la main légère du caprice. s'imaginant sans doute qu'il n'y a point de mois de mai aux bougies, les imprudentes approchaient, sans trembler, leurs épaules céruséennes des touffes de lys irisées et diaphanes qui s'épanouissaient au corsage de Caroline, comme au bord d'un charmant vase antique, tout svelte et tout pur, et elles ne manquaient jamais de se dire entre elles, quand la comtesse arrivait quelque part, « Ne trouvez-vous pas que la grande fraîcheur de Madame d'Anglure se passe un peu ?» Du reste, elles avaient décidé souverainement qu'elle avait l'air bête. Et vraiment, la pauvre Caroline, qui avait été élevée à la campagne, ou plutôt qui n'avait pas été élevée du tout, ne pouvait guère mettre dans sa physionomie de ces effrayants airs de tout comprendre et de pouvoir tout exprimer qu'ont les femmes de cet admirable siècle, si profondément intelligents. Quand le comte d'Anglure l'épousa, elle n'avait fait que lire son office de la Vierge et cultiver des résédas. Et quand il la conduisit dans le monde, ce qu'elle y vit et y entendit n'éveilla point en elle ces facultés dont les prodigieux développements chez les autres femmes menacent, si cela continue, de devenir un véritable fléau. Elle n'eut aucune des affectations modernes. Lamartine l'ennuyait sincèrement, et sa loge était souvent vide les jours que Rubine y chantait. Elle se contentait d'être le je ne sais quoi de joli, de rond, de gracieux et de parfumé, qu'est une femme qui reste femme. La seule chose que, dans leurs ambitions effrénées, elles oublient de vouloir être maintenant. Mais si les excellentes amies de la comtesse travaillèrent à lui faire une superbe réputation de sottise et d'ignorance, il leur fallut toutefois reconnaître que cette petite et insignifiante personne n'était pourtant ni gauche ni timide, et qu'elle faisait les honneurs de chez elle avec aussi peu d'étonnement que si toute sa vie s'était passée dans ce monde où elle arrivait. Cette jeune fille d'hier avait l'aplomb du nom qu'elle portait. Elle qui n'avait jamais vu que quelques curés de campagne et quelques gentilshommes chasseurs, vieux et bruyants amis de sa tante, Mademoiselle Thécla de Vaucernay, elle avait les manières simples, la voix, l'accent, la phrase brisée, la politesse relevée et quelquefois familière de la femme essentiellement comme il faut. Qualité morale de la noblesse de sang et de race qui font se ressembler, malgré les différences d'éducation, la femme la plus répandue est celle qui n'a jamais quitté la tourelle de son château de province. À peine Caroline eut-elle fait faire ses robes chez Palmyre qu'elle eut l'air aussi comtesse que les femmes chez qui elle allait au faubourg Saint-Germain. On sentait soudainement, en voyant ces femmes vieillies sur les parquets de ces salons et cette petite mariée qui n'y avait jusque-là jamais posé la pointe de son pied, qu'elles étaient providentiellement écloses pour remplir le même rôle social et qu'elles étaient égales entre elles par les traditions du berceau. Cela seul empêcha peut-être qu'elle ne succombât, comme femme à la mode, sous la réputation d'affreuse bêtise qu'on s'amusa à lui tailler à facettes. Car ce fut par ce mot cruel et forcé qu'on traduisit la plus ineffablement charmante absence d'esprit qui fût jamais. Cette imprescriptible noblesse qu'elle avait dans l'accent et dans la physionomie quand elle disait de ses riens, qui était hélas toute sa conversation. L'hélas était la charité ordinaire des femmes qui lui trouvaient la peau trop blanche. Cette noblesse originelle la sauvait de l'espèce de ridicule qu'il y a en France, le pays, comme l'on sait, le plus spirituel de la terre, a manqué de tout ce que le monde a, et où les femmes, surtout, se placent à une si grande hauteur que, pour deux mots à leur dire sur leur bonne grâce ou celle de leur robe, on est obligé de subir une conversation si spirituelle, si mille fleurs d'Italie, qu'une bonne migraine en est toujours le résultat. Fût-ce le contraste, plein d'imprévus, qu'il y avait entre cet enfant que l'instinct du monde et son aristocratie naturelle empêchaient d'être une Agnès, mais qui n'avait dans sa jolie tête rien qui ressemblât à une pensée sur quoi que ce soit, et les femmes distinguées, qui en ont surtout une immensité, fût-ce ce contraste, ou seulement l'alicient parfum de la plus exquise jeunesse en fleurs, qui lui livra et lui retint tous les hommages. Parmi ceux qui lui furent offerts, si elle voulut en agréer quelques-uns, ce ne fut point son mari qui l'en empêcha. Son mari, homme élégant d'ailleurs, l'avait moins épousée pour elle-même que pour cimenter les relations qui existaient de fort longue date entre les Vaucernay et les d'Anglure. Il fut probablement décidé aussi par la beauté de cette blanche personne qui promettait à ses enfants un sang si pur. Et comment n'eut-il pas plongé sa lèvre avec un certain frémissement dans l'écume légère et savoureuse de ce sorbet virginal? Mais peut-être le trouva-t-il un peu froid. C'était tout à fait un homme de son temps que Raoul d'Anglure, de ce temps où la vie anglaise, la vie des hommes entre eux, a succédé à ces relations de tous les instants avec les femmes qui donnaient aux hommes d'autrefois cette grâce, hélas perdue, et qui causait de si grands désordres d'amour. Avec les habitudes qu'on prend si vite dans le laisser-aller de nos mœurs, il n'appartenait réellement pas à Caroline de captiver un homme comme Raoul. Aussi, peu de temps après son mariage, celui-ci donna-t-il à sa femme une liberté qu'elle ne désirait probablement pas. Il la suivit fort rarement dans le monde. Il passait ses journées à courir à cheval et à chasser. Puis, quand il était bien fatigué, il s'en allait clore ses soirées chez une ancienne maîtresse plus âgée que lui, et sur le canapé de laquelle il ne craignait pas de s'étaler avec ses bottes et ses éperons. Là, il trouvait toujours quelques amis, grands amateurs du « va te promener la honte » et de l'intimité des hommes qui se mettent au-dessus des apparences et qui les jugent sans soigner la rédaction du jugement. Rien ne vaut, à ce qu'il semble, cette intimité que les délicats traitent de grossière, mais qui n'astreint ni à la répartie ni à la grande tenue, si gênante pour l'égoïsme de nos jours. Cela est triste à dire, mais cela est. Le mariage lui-même a toujours une certaine pruderie, un certain guindé, ce certain vertugadin de satin blanc qu'on appelle la chasteté. Et toutes ces maudites agrafes, si difficiles à faire sauter, explique fort bien la préférence qu'on accorde et qu'accordait Raoul d'Anglure à une vieille maîtresse qui suce vos cigares pour les allumer et devant qui on se permet tout sans qu'elle soit choquée de rien, sur une ravissante jeune femme épousée par inclination et digne de tout l'amour des anges, si les hommes ressemblaient à ces derniers un peu davantage. Quoi qu'il en soit, la comtesse d'Anglure ne s'aperçut guère des négligences de son mari. Elle l'avait épousé sans l'aimer, et la vie extérieure de Paris l'empêcha de regretter la vie intime qu'elle n'avait pas. En vain lui insinuait-on quelquefois, avec beaucoup d'art, qu'elle ne devait pas être heureuse. Elle n'avait pas l'air de comprendre. Elle restait de la plus gracieuse stupidité. Rien n'altérait le blanc plumage de cette peau de cygne que lustraient la santé et la jeunesse, et qui avait les splendeurs bleuâtres du plus pur émail. Nulle larme ne rosait, car elle n'eût pas osé les rougir, ses paupières, si lentes à se mouvoir au-dessus de ses beaux orbes d'un gris si tendre qu'il semblait sourire en regardant. Aussi, les observatrices de salon chez qui elle allait prendre le thé disaient-elles qu'où l'esprit manquait, les sentiments vifs ou profonds devaient nécessairement manquer aussi. Bel axiome que M. de Molévrier fit mentir, car il advint que cette petite poupée qui ne pensait pas, et qui, comme la statue de même nom, ne savait dire que bonjour et bonsoir d'une voix harmonieuse, se prit à aimer M. de Molévrier avec une intrépide naïveté. Dans ce cœur d'une virginité fabuleuse éclata tout à coup cette fleur d'un sentiment vrai qui ne fleurit plus guère que tous les 100 ans, comme l'aloès, et qui fait moins de bruit. Elle retint l'amour prêt à disparaître de ce monde. Elle abrita quelques jours encore ce bel oiseau de paradis que bien des jeunes filles passeront désormais inutilement leur vie à attendre dans ce siècle où, en fait d'amour, le langage meurt avec l'idée, et où demain peut-être les lettres de Mademoiselle de Lespinasse seront regardées comme l'expression apocryphe d'un sentiment antédiluvien. Monsieur de Maulévrier arrivait alors on ne sait d'où, après une absence de plusieurs années. On connaît maintenant le marquis Rimbaud de Maulévrier. Une singulière particularité de sa biographie de cœur, c'est que jusqu'alors, il n'avait aimé que les femmes brunes. Les cheveux « feuilles mortes » de Madame d'Anglure le jetaient toujours dans des rêveries qu'il se reprochait, car il haïssait l'air rêveur. C'était, comme on l'a déjà vu, un oisif comme Raoul d'Anglure, mais un oisif d'une aristocratie plus relevée dans les habitudes de sa vie. Il préférait la société des femmes à celle des hommes, auxquels il adressait rarement la parole. Il ne détestait pas les esclavages de la toilette et n'eût pas prostitué sa bouche aux narguilés même du sultan. Parce qu'il n'aimait pas à courir toute la journée, bride abattue comme un jockey, on l'accusait d'être un efféminé, et les amis de Raoul l'appelaient en riant Sardanapale. Indépendant, au milieu de Paris, comme le vent dans les bruyères, et ne sentant pas l'affreux besoin d'être riche, il pouvait, si cela lui plaisait, s'engloutir tout vivant dans l'amour d'une femme du monde, ce dévorant passe-temps pour un homme qui eût anéanti l'âme de Bonaparte lui-même s'il n'avait pas eu le bonheur d'aimer une femme entretenue à une époque qui était un pêle-mêle social. Mais les misères du temps présent avaient tué à la mamelle l'ambition de M. de Maulévrier, et son orgueil était moins grand que sa vanité. Aussi, à force de regarder ses cheveux feuilles mortes et ce cœur d'épaule qui donnait une grâce si tombante à la robe de Madame d'Anglure, il se dévoua encore une fois à ce culte terrible qu'il avait déjà pratiqué, l'adoration d'une femme de naissance et de monde. Seulement, empressons-nous de le dire, Madame d'Anglure sut lui épargner toutes les aspérités auxquelles il s'était déjà si rudement froissé. Elle ne fit aucune des petites mines d'usage avant d'accepter ce qui lui causait tant de plaisir. C'est même de cette époque que la fatuité de Maulévrier devint célèbre. Caroline en couva et en développa le germe sous son amour. Elle l'aima avec la virginité de son âme, avec toutes les ignorances de son esprit. Elle l'aima sans songer à autre chose qu'à lui donner le plus grand bonheur possible, sans mesurer les conséquences de la passion qui se saisissait de son avenir, sans avoir le moindre souci de la fragilité des beautés qu'elle lui prodiguait et dont elle trouvait qu'il ne s'emparait jamais assez. Elle, qui, par la nature de sa beauté, était destinée à passer si vite, elle n'eut pas peur des dégâts affreux de la caresse, et elle s'exposa à tous les dangers du bonheur. Que voulez-vous ? Elle l'aimait comme une femme qui n'a pas dans l'esprit la moindre portée, mais dont la céleste niaiserie est le plus délicieux hasard que Dieu puisse jeter dans la vie d'un homme amoureux. Monsieur de Maulévrier, qui, en fait d'amour de salon, avait, comme il arrive toujours, avalé considérablement de crème fouettée avec plus ou moins de vanille, s'abreuva pour la première fois de ce lait chaud, pur et substantiel d'un sentiment vrai. Il fit même comme les chats gourmands qui fourrent jusqu'à leurs pattes dans la jatte pour mieux boire. Dans l'avidité de son bonheur, il empêcha Madame d'Anglure de se montrer aussi souvent dans le monde. Et il eut tort, car le monde doit être le premier amant d'une femme du monde, et si elle en a jamais un autre, il ne doit venir que bien loin après. Comme la comtesse aimait M. de Maulévrier avec la soumission de cette courtisane amoureuse qui mettait le pied de son amant sur son sein, nu, comme elle adorait ses moindres caprices, elle aurait fini par ne plus aller chez personne et à vivre follement pour lui seul. Si Madame de Gesvres, avec qui elle avait toujours été fort confiante, ne lui eût fait comprendre qu'en agissant ainsi, elle s'affichait et donnait contre elle, aux autres femmes, des armes dont elle ne manquerait pas de se servir. Et l'expérience de la marquise ne l'avait point trompée. Son conseil fut extrêmement utile à Madame d'Anglure. En dépit des nombreuses différences qu'il y avait entre ces deux femmes, opposées presque en toutes choses, elles se voyaient assez souvent. Madame d'Anglure allait beaucoup chez Madame de Gesvres. Madame de Gesvres lui avait toujours montré une bienveillance pleine de franchise et d'appui. Jamais elle n'avait partagé les petites jalousies de ces jolies créatures, moitié abeilles et moitié vipères, qui n'oubliaient point, quand il s'agissait de la comtesse, de mettre un peu de venin dans leur miel. Il faut le dire, malgré son costume de coquette, la grande marquise était bien au-dessus de ses misérables sentiments. Belle comme un jour d'Asie, elle admirait naïvement la beauté dans les autres, et toujours elle avait parlé de celle de Madame d'Anglure comme eût fait un homme impartial. Fière d'être belle, elle avait une fierté tranquille, inaccessible à toutes les alarmes. La comtesse d'Anglure, avec qui elle eut l'amabilité des cœurs généreux pour ceux qu'on traite avec injustice, la crut son amie, et vraiment elle l'aurait été, si, comme celle qui l'appelait de ce nom, elle s'était livrée en se liant, ce qui lui était impossible. On l'a déjà vu, le caractère de cette femme était fermé comme les portes de l'enfer. De toutes les grâces qu'elle avait en partage, Dieu ne lui avait pas donné la plus grande, celle de l'abandon. Elle écoutait avec une patience attendrie le récit de l'amour de Madame d'Anglure, mais elle ne rendait pas confidence pour confidence. Elle n'avait aucun des profits de l'amitié, elle n'en avait que la probité sincère. Car si, un soir, elle prit plaisir à faire renier à Monsieur de Maulévrier son amour pour Madame d'Anglure, c'est que Monsieur de Maulévrier s'était jeté lui-même dans cette voie de blasphème, et qu'aucune femme n'eût résisté à la tentation d'une si enivrante volupté. Et si elle désira parfois être aimée de l'amant de son amie, c'est qu'elle se trouvait bien à plaindre de se voir privée d'un bonheur qui n'était pas chose si rare, sans doute, puisque Madame d'Anglure, qu'elle jugeait de si haut, l'éprouvait. Et c'était d'ailleurs bien moins de la femme qu'elle était jalouse que de l'amour. Cet amour, elle l'avait cru une ressource, une dernière ressource contre l'ennui de sa vie. Mais, puissante à le faire naître, elle s'était trouvée impuissante à le ressentir. Si ses coquettes avaient rendu Monsieur de Maulévrier infidèle, hélas, qui avait-elle gagné? Femme chez qui un esprit mûri prenait insensiblement la place d'un cœur qu'un sang brûlant n'avait jamais gonflé, espèce d'âme étrange, mais qui, dans des sociétés comme la nôtre, tend chaque jour à devenir plus commune. Sa misère tenait à ses qualités mêmes. Madame d'Anglure, qui avait en tendresse ce qui lui manquait en intelligence, pouvait-elle se douter de cela? Monsieur de Maulévrier avait cessé de lui écrire depuis qu'il allait chez Madame de Gesvres. C'en était assez pour qu'un doute affreux s'élevât dans l'âme de la comtesse et pour qu'elle s'en vînt en poste à Paris et jusque chez Madame de Gesvres, voir, par ses yeux, si elle était réellement trahie. Chapitre 2. Pattes de velours. Quand la comtesse d'Anglure entra, Madame de Gesvres se leva et fit quelques pas au-devant d'elle, la main ouverte et la bouche souriante, comme on va au-devant d'une amie trop longtemps absente. Bien loin de repousser cette main qui lui était offerte, Madame d'Anglure la serra comme au jour de leur amitié la plus tendre. Ni l'une ni l'autre de ces deux femmes ne songeait à faire ce qu'on appelle du drame. elles étaient de trop bonne compagnie et de leur époque pour copier en miniature cette grande scène de Schiller entre Marie Stuart et Élisabeth d'Angleterre à propos du comte de Leicester. On est obligé de le reconnaître. Pour les gens aux yeux de qui le plus grand péché d'élégance est de mettre ses impressions personnelles à la place des usages reçus, le drame et tout ce qui y ressemble ne saurait guère plus exister, ou, s'il existe, ne doit avoir plus d'autre théâtre que la conscience, derrière les paroles et les actes qui servent toujours à la violer. Quels que fussent donc les sentiments de Madame d'Anglure, elle était trop comtesse pour les montrer à sa rivale, et cela en présence de l'amant qu'elle venait presque réclamer. Son émotion ne lui fit pas transgresser ses lois du monde, contre lesquelles se révoltent des moralistes de roman, et dont la gloire est de ressembler à ce qu'il y a de plus beau dans la nature humaine, à la pudeur et à la fierté. Ainsi, tout resta parfaitement convenable entre ces trois personnes, dont les sentiments étaient sans doute si agités et si divers. Les deux femmes s'embrassèrent, et après avoir légèrement salué M. de Maulévrier, qui s'était incliné devant elles comme s'ils avaient été étrangers l'un à l'autre, Madame d'Anglure s'assit sur la causeuse de Madame de Gèvres. Joli spectacle que ces deux femmes enfermées dans la courbe gracieuse du meuble consacré aux mollesses et aux intimités de ces créatures languissantes. On eût dit deux charmantes couleuvres, s'enlaçant sur un tapis de fleurs et se caressant de leur dard, sans oser encore se blesser. Alors commença, entrecoupé de petits mots d'amitié et de familiarité ravissante, une conversation fort insignifiante dans le fond, mais qui, comme dissimulation et souplesse, eût fait certainement beaucoup d'honneur à la barbe grise des plus vieux et des plus rusés diplomates de l'Europe. Madame d'Anglure dit qu'elle s'était si ennuyée à la campagne auprès de sa belle-mère qu'elle n'avait pu résister à l'envie de partir. C'était là toute son histoire, et elle la fit en quelques mots, avec une simplicité d'accent à laquelle on se serait volontiers mépris. La marquise lui renvoya la balle dans ce sens, et la conversation, ricochant d'une idée à une autre, dériva bientôt aux élégants commérages des femmes entre elles, quand elles veulent se tenir en dehors de leurs sentiments. Cette conversation, à côté de leur position réciproque, ne dut pas coûter beaucoup à Madame de Gèvres. Elle était calme, puisqu'elle n'aimait pas M. de Maulévrier et qu'elle venait de le lui dire dans le moment même. Mais Madame d'Anglure ne l'était pas. Et réellement, la marquise, qui dédaignait un peu trop peut-être le caractère de son amie et qui savait qu'avec son amour aveugle pour M. de Maulévrier, elle était fort capable de provoquer un éclat, dut s'étonner que la comtesse se jouât si librement et avec une facilité si animée dans l'écume légère d'une causerie toute de gaieté et de rien, quand elle devait avoir le cœur dévoré de la plus sombre jalousie. Cette jalousie, que Madame d'Anglure nourrissait depuis plusieurs mois, avait marqué sa trace partout sur les lignes de ce suave visage, délicat comme le velouté des fleurs. Elle était extrêmement changée. L'idéale beauté du teint s'était évanouie. Malgré les ruches qui garnissaient le chapeau lilas qu'elle portait et qui encadraient l'ovale de cette figure, atteint déjà, on voyait que la joue avait perdu sa rondeur voluptueuse et qu'elle commençait à être envahie par le vermillon âcre et profond que donne la fièvre des passions contenues. Ce rapide et cruel changement frappa d'autant plus la marquise que la force des sentiments qui l'attestaient n'emporta pas une seule fois Madame d'Anglure. Elle demeura aussi désintéressée en apparence dans les mille hasards de la causerie que si elle n'avait pas étudié la femme avec qui elle jouait de paroles légères et de façon caressante. Tout en cherchant à deviner ce qu'elle croyait le secret de la marquise, elle ne livra point une seule fois le sien. L'instinct de la conservation, naturel à tous les êtres, l'éleva pendant tout le temps de sa visite au niveau d'une femme d'esprit. Monsieur de Maulévrier contemplait avec un sentiment douloureux cet étrange spectacle. Il était frappé, comme Madame de Gesvres, du ravage de ces quelques mois sur la beauté qu'il avait aimée. Et comme, si fat qu'il fût, il avait de l'âme autant qu'en ont les hommes parfaitement civilisés, il était épouvanté et attristé en même temps. La mesure que gardait la comtesse l'étonnait bien un peu aussi, mais comme il était mieux exercé à lire que la marquise dans les moindres mouvements de Madame d'Anglure, où la marquise ne voyait que du calme, il voyait, lui, à de certains frémissements des lèvres, à de certains éclairs dans le regard, que l'orage grondait et brûlait sous ses menteuses surfaces. Quoique son aplomb d'homme du monde lui fût venu en aide, et qu'il eût rougi de se montrer moins dégagé que les deux femmes qu'il avait devant lui dans les allures d'une conversation qui n'exprimait aucun des sentiments réels de qui la faisait, il n'avait pas cependant cette dissimulation aisée, ce charme de mensonge silencieux, ce tact inné avec lequel Madame de Gesvres et Madame d'Anglure évitaient tout ce qui eût pu amener une explosion. En comparaison de ces deux lutteuses, il se trouvait gauche, parce qu'il se sentait contraint. Et il était contraint parce qu'il était homme, et parce que où les femmes passent en se glissant comme des reptiles, les hommes ne se frayent un passage qu'en brisant tout comme des éléphants. Cette visite de Madame d'Anglure, qui ressemblait à une reconnaissance de la position de l'ennemi, dura presque une heure. Une mortelle heure à la pendule de Madame de Gesvres, mais un siècle sans doute au cœur de la malheureuse comtesse, qui devait compter les minutes autrement que le bronze inerte et glacé. Dans cette heure de torture dévorée, la marquise ne donna pas à son ennemi, car la comtesse l'était devenue, le plus petit des avantages. Elle fut de la sérénité la plus désespérante. Elle ne dit pas un mot qui pût faire croire que Monsieur de Maulévrier fût plus pour elle qu'un homme bien né à qui tous les salons étaient naturellement ouverts. Elle n'évita point une seule fois de le regarder et de lui répondre. Elle aurait eu une passion dans le cœur qu'elle n'en aurait jamais eu l'embarras. Mais la passion était absente, et la sagacité de la jalousie, la seule sagacité qu'eut la pauvre petite d'Anglure, fut considérablement désorientée par un naturel si plein de vérité et si bien soutenu. Intérieurement, Madame d'Anglure éprouvait une véritable colère de ce qu'elle croyait une comédie parfaitement jouée. Comédienne elle-même, elle s'irritait d'avoir affaire à une comédienne aussi habile qu'elle. Elle se voyait battue à plate couture, et elle s'en prenait à son peu d'esprit et à celui que dans le monde on donnait à Madame de Gesvres. Son dépit était aussi furieux qu'amer. C'étaient des sensations trop vives pour résister longtemps à leur violence. Aussi, fort heureusement pour elle, l'instinct qu'il avait préservé de toute ouverture imprudente, l'instinct de la femme du monde, lui inspira-t-il de s'en aller. Mais cet instinct eut beau réclamer dans son âme, elle ne put supporter l'idée qu'en s'en allant, elle laisserait Monsieur de Maulévrier avec Madame de Gesvres. Et si ce fut une faute que de vouloir arracher son amant à celle qu'elle supposait sa rivale, oui, si ce fut une faute après les dissimulations sublimes qu'elle avait réalisées, elle l'a commis. « Adieu, ma chère, » dit-elle à Madame de Gesvres, « je suis bien heureuse de vous avoir revue. « Adieu, je vous quitte. Il est tard. Maintenant que me voilà revenu de cette vilaine campagne où je me suis tant ennuyée, nous pourrons nous voir tous les jours. » Et elle se souleva de la causeuse, mais elle y retomba assise avec une négligence adorable pour renouer un des rubans de son manchon. « Monsieur de Maulévrier, dit-elle alors en nouant gravement le ruban détaché, et avec ce ton que seules les femmes du monde connaissent et qui sauverait l'inconvenance des propositions les plus hasardées. « Voulez-vous me donner le bras jusqu'à ma voiture ? Et si vous n'avez pas la vôtre, je vous jetterai chez vous en passant, vous êtes sur mon chemin. » Maulévrier se vit pris sans pouvoir dire non. Il se prépara donc à sortir avec la comtesse. Celle-ci, soulagée des contraintes de la soirée par ce qu'elle venait de décider, tendit encore une fois sa petite main gantée à la marquise, qui, peut-être, sentit alors la griffe d'abord si bien cachée, et il sortit avec un air d'aiglonne qui remporte sa proie à son nid. Comme elle l'aime et comme elle est changée, fit la marquise de Gesvres restée seule. Et disant cela, comme elle était debout, son œil se porta sur la glace où elle se vit, elle, toujours belle, ne changeant pas, astre magnifique, éternel, immuable. On change, ajouta-t-elle avec une tristesse amère qui vengeait bien ceux qui l'avaient vainement aimée. On change parce qu'on aime et qu'on souffre, mais du moins on ne s'ennuie pas. Et elle se mit, tout en bâillant, à sonner l'orette pour venir la déshabiller. Chapitre 3. Les fausses confidences. Le lendemain, les trouva de bonne heure à la place où se passait ce drame sans action extérieure, sans grands bras, sans portes fermées et ouvertes, cette chose simple, réelle, la vie. Après une nuit de convulsions et de larmes de la part de Madame d'Anglure, M. de Maulévrier s'en était revenu à ce fatal boudoir de satin jonquille où un charme cruel le ramenait toujours. À force de mensonges, de fausses caresses et de fleurs d'oranger, il avait calmé sa nerveuse maîtresse, et puis il avait pris sa course vers l'hôtel de Gesvres, ne respirant que la marquise, et croyant retrouver sur son front pâli une de ces nobles et tristes impressions de la veille qui lui avaient paru si touchantes. Mais basta, la lune n'était pas si changeante que cette muable femme, et il y eut eu 100 années au lieu d'une nuit entre la marquise de la veille et celle du lendemain, que sa physionomie n'aurait pas été plus au rebours de l'espérance de Maulévrier. Le bandeau d'ennui qui lui saignait si souvent le front était caché sous des boucles mignardes et crêpées qui allaient si mal au caractère ferme de sa beauté. La femme et toutes ses ondoyances, ses morbidèdes, ses gaietés moqueuses, se remontraient dans cette grande statue, désespérée parfois et silencieuse, comme l'agneau béantique, et qui, ennuyée de son piédestal comme de toute chose, en descendait pour jouer et s'agiter auprès comme un enfant. Ce n'était plus qu'une Parisienne piquante, vive et un peu affectée, un vrai type de femme d'esprit, mais d'esprit de femme, tout en pointe d'aiguille, de malice et de curiosité. Elle attendait Maulévrier avec plus d'impatience qu'à l'ordinaire, et quand elle le vit, « Eh bien ? » fit-elle. « Eh bien, » répondit M. de Maulévrier, « Caroline sait tout, ou plutôt, elle sait plus que tout, car elle croit que nous nous aimons, tandis qu'il n'y a que moi qui vous aime. » « Ah, contez-moi donc ça !» dit-elle en se tordant sur sa chaise longue, dans son peignoir de mousseline rose, et en respirant à pleine narine un délicieux flacon ciselé qu'elle tenait. « Comptez, mon ami !» répéta-t-elle avec une incroyable sensualité. Au mouvement presque libertin de cette chute de rein admirable, on eût dit Léda attendant son signe et se préparant à la volupté. Elle lui jeta 2 regards à le rendre fou si lui ne l'avait pas connu, s'il n'avait pas déjà fait l'expérience que ce qui ressemblait à de la passion dans cette femme n'était qu'un élan de l'esprit et rien de plus. « Mon Dieu !» reprit M. de Maulévrier avec une expression capable d'éveiller plus d'un dépit secret dans le cœur énigmatique de la marquise. Mon Dieu, c'est là une assez triste histoire. Et d'autant plus triste qu'elle n'est pas finie, et que je ne prévois guère comme elle finira. L'absence et le soupçon qui en a été la suite ont exaspéré tous les sentiments de Madame d'Anglure. Ses sentiments sont beaucoup plus profonds que je ne pensais. Quelque dévouée qu'elle se soit montrée jusqu'ici, et de quelque douceur qu'elle ait entouré ma vie, je ne croyais pas, en m'éloignant d'elle, briser tout à fait la sienne. Non, franchement, je ne le croyais pas. Vous savez bien, ma chère Bérengère, que je n'ai pas vos idées sur l'amour. Vous avez une façon de le concevoir qui vous dispense probablement de l'éprouver. Mais moi, qui ne suis pas arrivée à 27 ans sans l'avoir connu plus d'une fois, et à qui celui que vous inspirez ne fait pas d'illusion dernière, je ne pensais pas qu'une femme du monde, aussi facilement distraite de ses propres impressions que peut l'être Madame d'Anglure, dut ressentir une de ces passions contre lesquelles tout est impuissant, jusqu'à la fierté. Hier, quand je vous quittais, mon ami, et que je montais dans la voiture de la comtesse, j'espérais qu'une bonne scène allait rompre pour jamais des liens qui me pèsent depuis que je vous aime. J'espérais que l'idée d'être quittée, pour vous, lui donnerait le courage d'une explication suprême, et qu'aujourd'hui tout serait fini. Mais il n'en a point été ainsi. J'ai vu une de ces douleurs que je ne connaissais pas encore. La nuit s'est passée pour cette femme dans de telles angoisses que je n'ai pas osé lui avouer que je ne l'aimais plus, et confirmer par là toutes ses jalousies. Je me suis pris de pitié pour cet être faible et misérable, dont la destinée reposait sur moi. Et quoique mon cœur démentit tout bas en pensant à vous ce que je lui adressais tout haut, je suis enfin parvenue à assoupir la violence de ces malheureux sentiments, que je ne partage plus, et sur la force desquels je voudrais vainement m'abuser. Pauvre femme, fit la marquise, arrivée au bout de ses deux jouissances, de parfums respirés et de curiosité satisfaite, et en refermant son flacon avec le bouchon d'or qui le surmontait. Oui, pauvre femme, répéta monsieur de Maulévrier avec un accent de compassion plus sincère. Elle m'a fait sentir le premier remords que j'ai jamais éprouvé d'une chose aussi simple et aussi involontaire que de cesser d'aimer. En regardant cette tête si jeune et si changée, vous ne sauriez croire à quel point je me reprochais le mal auquel j'avais condamné tant de beauté et de jeunesse. « Et c'est un fort bon sentiment, » ajouta Madame de Gèvres, « car le mal est grand, en effet. Elle, qui était si charmante, n'est plus même jolie. Entre autres jalouses de Caroline, vous aurez rendu Madame de Guénéuc bien heureuse. » Parce qu'elle est d'un blond assez fade, elle s'est toujours crue la rivale en blancheur de Madame d'Anglure. Maintenant, la grande fraîcheur de cette pauvre comtesse ne lui rougira plus la sienne de dépit. Malgré le peu de vivacité et d'amertume que Madame de Gèvres mit à faire cette réflexion toute féminine, Monsieur de Maulévrier y vit-il autre chose que l'impitoyable cruauté du sexe? Cette cruauté que l'on retrouve dans la meilleure et la plus désintéressée des femmes, quand il s'agit d'une autre femme, qu'on a l'air de pleurer devant elle, ce qui est de fait fort impertinent. Toujours est-il que, dans l'impossibilité où l'on est si souvent de rester vrai avec une femme, il se prit à poser, comme s'il avait été femme lui-même. Il mit sa main gantée sur l'angle de la cheminée près de laquelle il était assis, puis il appuya son front sur sa main avec un petit air de saule pleureur qui ne manquait pas d'une certaine grâce de mélancolie. « Vous souffrez, Rimbaud ? » fit la marquise, avec des yeux où la tension commençait de renaître. « Eh bien ?» et elle veloutait d'une voix attendrie le sarcasme, si c'en était un. « Vous n'en êtes que plus intéressant à mes yeux. Vous ne ressemblez pas à ceux qui oublient. La mémoire d'une intimité de 2 ans n'est pas abolie en vous par un autre amour. Ah, si cet autre amour avait été heureux! interrompit Maulévrier avec l'ardeur d'un regret inconsolable. « Peut-être, aujourd'hui, Bérengère, le sentiment dont vous me faites un mérite n'existerait pas. Eh mon Dieu, c'est de l'égoïsme encore. Si l'amour que je perds m'est une si grande perte, c'est surtout parce que vous n'avez pas pu le remplacer. » « Et qui sait, mon ami ? » répondit-elle avec calme. « Vous n'êtes peut-être pas si détaché de Madame d'Anglure que vous le pensez. On se fait de si profondes illusions sur soi-même. C'est une chose si bizarre que le cœur. Vous m'avez aimé pendant l'absence d'une femme qui vous avait rendu parfaitement heureux pendant 2 années, et qui, comme maîtresse, vaut, je le sais, 100 fois mieux que moi. Aujourd'hui, voilà que cette femme revient parce qu'elle est jalouse et malheureuse. Elle revient vous offrir le spectacle d'une jeunesse flétrie par vous, d'une beauté ravagée, d'une vie perdue, d'une santé détruite peut-être, et cela au moment où celle que vous lui avez préférée vous laisse voir l'impossibilité où elle est d'éprouver l'amour comme vous l'auriez désiré. Allez, cette femme est encore bien puissante. Il n'est pas dit que vous ne vous repreniez pas au lien dont vous vous plaignez à l'instant même. Il n'est pas dit que l'impression que je vous ai causée résiste à l'éloquence d'un pareil retour. Et en vérité, je le voudrais presque, dit Maulévrier avec le petit machiavélisme dont il essayait le succès, et en cherchant à voir clair dans les sensations de la marquise. Et moi ? Fit-elle en souriant avec une placidité déconcertante. « Je vous jure que je le voudrais tout à fait. » Était-ce là une ironie profonde qui devait peu coûter à cette femme d'un si grand empire sur elle-même? Malgré les assurances de sincérité qu'elle lui avait données, il était permis à M. de Maulévrier d'être légèrement sceptique. Elle était, en somme, la plus distinguée de ces créatures de ténèbres qui n'avaient pas besoin que l'on inventât les éventails pour cacher le laisser aller de leurs yeux. Elle pouvait donc donner à du dépit la forme d'un désintéressement parfait. D'un autre côté, ce dépit que M. de Maulévrier avait essayé de faire naître en affectant une tristesse et un désir qu'il ne sentait pas, pouvait venir autant de la vanité que de l'amour. Mais la vanité est si près de l'amour dans les femmes du monde, tout cela est si divinement pétri et fondu, qu'intéresser l'un ou l'autre amène souvent au même résultat. Or, c'était précisément le résultat dont M. de Maulévrier était avide. Il était arrivé à ce degré de l'amour, dans les êtres qui n'ont pas le triste et très peu fier honneur d'être poétiques, où la possession la moins délicate paraît la meilleure, et où ce qu'il y a de plus adorable dans l'amour même serait sacrifié brutalement à cette diabolique possession. Ce jour-là, M. de Maulévrier sortit de chez Madame de Gèvres moins lassé et moins désolé qu'à l'ordinaire. Il n'aurait pas pu se vanter, il est vrai, d'avoir entendu murmurer le plus faible dépit dans tout ce que lui avait dit la marquise. Mais la possibilité de ce dépit s'était offerte à lui comme une espérance, et il s'affermit dans la résolution d'attaquer par la vanité, endroit toujours mal défendu chez les femmes, cette forteresse imprenable à l'amour. Il s'en alla répétant les belles paroles de l'Ecclésiaste. « Elle ne m'aimera pas davantage, pensait-il, mais elle succombera. Elle succombera en femme du monde, froidement, élégamment et dans sa cuirasse, sans qu'une telle façon de si peu se donner nuise à aucune de ses prétentions de cœur éteint. Ce que n'auront pu faire les sentiments tendres, les sentiments égoïstes et jaloux l'auront fait. » Ainsi, comme il arrive toujours, il était démoralisé par la résistance, et l'amour n'était plus à ses yeux que ce contact de 2 épidermes auxquels le réduisait, sans cérémonie, cet insolent de Champfort. Chapitre 4. Le fond de l'abîme. Une fois bien ancré dans sa résolution, M. de Maulévrier comprit la nécessité de modifier sa vie extérieure. Il ne passa plus ses journées chez Madame de Gèvres, et quand il y alla, il choisit toujours le moment où elle n'était pas seule, le soir, par exemple, cette heure à laquelle elle recevait ceux qui préféraient à l'éclat des fêtes dont elle s'était retirée la libre causerie d'une femme d'esprit. Alors, il la trouvait flanquée de ses cavaliers servants, qui servaient sans gage et qu'elle savait fixer en ne cherchant pas à les retenir, de ses adorateurs fidèles, qui, depuis des siècles, s'en venaient chaque soir contempler cette femme mobile comme Nina contemplait la mer inconstante, et qui s'en retournaient, disant peut-être inutilement comme Nina « Ce sera pour demain ». Au milieu de ce petit monde dont elle était le centre et la vie, elle était animée jusqu'au rire d'une amabilité un peu taquine, et disant sciemment, du haut de son bon sens, de ces absurdités charmantes qui vont si bien aux lèvres roses, grâce des femmes et des enfants. Quoique plus malheureuse que Louis XIV, qui avait le bonheur d'aimer et de pleurer, elle fut reine et s'ennuya. Jamais l'ennui, que monsieur de Molévrier savait être le fond de son âme, ne se trahissait dans ses paroles ou dans ses regards quand elle était entourée. L'être extérieur reprenait le dessus, et, plus forte que tout le reste, elle n'était plus dans ces instants qu'une irréprochable maîtresse de maison. À aucune époque elle ne s'était montrée autre chose aux yeux des autres pour monsieur de Molévrier. Comme elle n'avait pas l'abandon de ses sentiments, ni mot plus mystérieux, ni familiarité plus tendre n'avaient indiqué une de ses préférences, sur la nature desquelles il est si facile de se tromper. Cependant, les hommes qui la voyaient, et qu'elle n'écoutait pas, proclamaient, en l'enviant, le bonheur de monsieur de Molévrier. Mais ce n'était point ses manières avec lui qui leur avaient donné cette idée. C'était, après la peur que ce ne fût vrai, l'indépendance hardie qu'elle avait mise à recevoir, malgré les bruits de quelques salons, un homme qui avait la réputation d'être un grand fat et de ne perdre son temps chez personne. Lorsque cet homme s'éloigna d'elle, les femmes qui faisaient galerie à cette liaison et qui, lorgnette en main, semblaient en étudier toutes les phases, les femmes s'imaginèrent que le dénouement qui avait tant tardé était arrivé, et que madame d'Anglure était fort à propos, revenue clore un si fâcheux interrègne. Les hommes les plus attachés à la marquise le crurent aussi de leur côté, et comme ils la visitaient tous les soirs, ils purent admirer le magnifique empire et la désinvolture inouïe avec lesquelles madame de Gèvres pouvait voiler une rupture assez manifeste d'ailleurs. Pour tous ces hommes ferrés en diable sur les convenances du monde et qui n'avaient jamais compris, comme le cardinal de Retz, que les devoirs extérieurs, la marquise révélait une supériorité très remarquable en restant imperturbablement la même à l'égard de monsieur de Molévrier. Le fait est qu'elle ne lui adressa pas la moindre petite observation qu'on eût pu prendre pour un reproche sur ses visites plus rares et plus courtes. Quand il ne venait pas, il semblait qu'il n'eût jamais existé pour elle. Quand il venait, elle le recevait avec cette main ouverte, cette hospitalité de sourire et cette étincelle perlée dans le regard qui disait à tous « Vous voilà, tant mieux !» mais qui ne jaillissait du fait exclusif de la présence de personne. Monsieur de Molévrier, qui connaissait la puissance que cette femme glacée exerçait sur elle sans grand combat, ne s'étonnait point de cette conduite. Il savait bien que dans toutes les hypothèses, elle ne lui donnerait jamais le spectacle de son dépit, et que, pour en saisir la trace et en tirer le parti qu'il espérait, il aurait besoin de toute sa finesse d'observation, de toute la pénétration de son coup d'œil. Il savait qu'il jouait un jeu hasardeux, difficile, qu'avec des femmes d'une civilisation raffinée, l'amour ne ressemble plus guère aux bucoliques des premiers temps. Du reste, monsieur de Molévrier, en allant plus rarement chez madame de Gèvres, devait rassurer la tendresse alarmée de madame d'Anglure. C'était comme une preuve ajoutée à toutes les assurances qu'il lui donnait de son amour et qu'elle n'acceptait qu'en doutant encore. À dire vrai, sa jalousie eût-elle été 100 fois plus inquiète et 100 fois plus grand l'espèce d'effroi que lui causait cette grande marquise, d'une beauté si bien reconnue et d'une coquetterie dont le monde racontait des choses effroyables, elle ne pouvait pourtant ne pas sentir un mouvement de joie et d'orgueil en voyant Maulévrier la préférée, elle que le chagrin avait tant changée, à cette marquise du démon. Ses amis n'avaient pas manqué de lui apprendre à la façon dont M. de Maulévrier avait passé son temps pendant son absence. Mais comme, depuis qu'elle était revenue, ce temps lui était consacré presque aussi exclusivement qu'autrefois, elle pouvait croire, à ce qu'il semblait, que l'ennui d'être éloigné d'elle avait fort innocemment poussé son amant chez Madame de Gèvres. Une autre, plus spirituelle et plus vaniteuse, eût admis peut-être cette chimérique innocence. Mais ce n'était pas l'esprit qui faisait en elle obstacle à cette illusion assez douce. C'était la défiance, naturelle à un sentiment aussi profond que le sien. Elle souffrait donc toujours de cette inquiétude éternelle qui, une fois excitée dans les cœurs bien épris, n'y périt plus. Elle souffrait, malgré toutes les négations que Maulévrier avait opposées à l'expression, d'abord éplorée, de sa jalousie. Rien n'y faisait. Ni cette intimité qu'elle avait retrouvée à peu près telle qu'elle avait existé autrefois, ni l'indifférence que M. de Maulévrier montrait, après tout, pour la marquise. Folle, qui avait raison au fond, elle souffrait contre les apparences. Et jusque dans les soins et les familiarités de l'amour même, elle tremblait toujours de l'avoir perdue. Quant à M. de Maulévrier, il faut lui rendre cette justice, qu'il montrait plus de persistance et de courage pour arriver au but qu'il voulait toucher, que jamais chevalier novice n'en mit à gagner ses éperons. Il fut héroïque, en vérité. Il s'enferma pendant des journées avec une femme qu'il n'aimait plus. Il eut à l'empêcher de pleurer quand l'envie lui en prenait, et cette envie venait souvent. Il avait à assoupir de fort légitimes défiances dans le narcotisme des phrases sentimentales. Lui, dont elle avait fait un sultan, et pour qui toute la vie avec elle s'était passée à se coucher sur des coussins de canapé et à se laisser adorer en silence, il avait secoué une nonchalance si superbe et caché l'immense ennui qu'elle lui causait sous un luxe d'amabilité qu'elle ne lui avait jamais connu, même au temps de leurs plus beaux jours. Pauvre créature sans esprit, mais dont l'amour était du génie, elle jouissait de cette amabilité sans s'y laisser prendre. Quand il lui avait bien répété sur tous les tons qu'il n'aimait qu'elle, elle lui disait avec un regard ineffable « Tu m'empoisonnes peut-être, mais tu m'enivres, et une telle ivresse est si douce qu'elle fait pardonner le poison. » Mais des mots si poignants n'étaient que du jargon moderne pour M. de Maulévrier, car rien ne donne un mépris plus philosophique pour l'amour et son genre d'éloquence que celui qu'on ne partage plus et dont on est persécuté. Il restait dans le cœur parfaitement insensible à tout cela. La seule chose peut-être dont il fut touché était le déplorable état de santé de Madame d'Anglure, état de santé qui allait se détériorant de plus en plus. Maulévrier ne croyait pas que l'on pût mourir d'un sentiment ailleurs que dans les ballades allemandes, mais il pensait que, même à Paris, un sentiment très exigeant et très malheureux pouvait influer sur la santé d'une femme naturellement délicate comme était Madame d'Anglure. Le spectacle qu'il avait sous les yeux, d'ailleurs, ne lui permettait pas d'en douter. Tous les accès de larmes de Madame d'Anglure finissait par des évanouissements très réels. Quand elle avait parlé, avec cet âpre mouvement des personnes dominées par la turbulence de leur propre cœur, une toux déjà ancienne, mais aggravée, lui causait des crachements de sang qu'elle regardait, en pensant que ce sang était versé par sa poitrine, avec le sourire fauve des êtres qui se voient mourir. Ces détails physiques touchaient bien plus Maulévrier que le sentiment qu'elle lui donnait, et dont la prodigieuse énergie avait résisté à l'énervation des salons. La pitié de l'amant était détruite, mais la pitié qui nous prend tous en voyant périr ce qui est jeune et se flétrir ce qui est beau, la pitié de l'homme restait encore. Pauvre reste, il est vrai, et qui se perdait bientôt dans l'idée fixe qui avait remplacé pour M. de Maulévrier tous les souvenirs de la vie, toutes les préoccupations du cœur. Et comment se fût-il appesanti sur l'idée cruelle de Madame d'Anglure mourant par lui et pour lui, quand il ne pensait qu'à surmonter les résistances de la marquise, quand cette infortunée Madame d'Anglure était un des moyens à l'aide desquels il étayait ses succès futurs. Cette pensée d'un succès que Madame de Gèvres lui faisait acheter un tel prix le soutenait dans sa double épreuve de dissimulation et de mensonge vis-à-vis les deux femmes qu'il avait entrepris de tromper. Il était enchanté de la sensation que sa conduite avait produite dans le monde et de ce que les femmes, qui battent l'eau si bien en fait de commérage et qui la font jaillir si loin, recommençassent à tympaniser Madame d'Anglure sur le peu de fierté de ses relations avec un homme dont elle n'ignorait pas les torts. Tout cela servait ses projets à merveille, car enfin, il était bien sûr que malgré la distance que Madame de Gèvres avait mise entre son salon et les pandémoniums à la mode, le bruit de cette reprise d'intimité avec une femme qu'on avait jugée « plantée là » ne manquerait pas d'aller jusqu'à ce boudoir de satin jonquille d'où l'amour était exilé, mais où la vanité parisienne, roulée comme un chat dans sa fourrure, sous les plus habiles artifices, pouvait bien se trouver encore discrètement tapie dans quelque coin. Et en effet, si cachée qu'elle y fût, il crut enfin l'avoir découverte et blessée, quand, après plus d'un mois pendant lequel il n'avait fait que de courtes et officielles visites à Madame de Gèvres, il reçut d'elle un gracieux billet où ses prétentions au plus pur désintéressement étaient maintenues, mais où, malgré les hiéroglyphes égyptiens de sa manière, circulait je ne sais quel souffle de moquerie que M. de Maulévrier, à qui les désirs avaient appris les subtilités de l'analyse, se mit à respirer à longs traits. « Ai-je prophétisé juste ?» disait le billet. « Mon cher Rimbaud, je vous ai prédit que vous reviendriez à Madame d'Anglure, et il n'est bruit que de cette grande liaison qu'on disait finie et qui recommence, en dépit des méchants propos de ceux qui ne croient à l'éternité de rien dans ce triste monde. J'ai cru, avant tout, que, si amoureux que vous fussiez de moi, vous aviez mille raisons de l'être plus encore de Madame d'Anglure, et j'ai désiré la première que vous le redevinssiez, puisque mon malheureux caractère était incapable de vous donner le bonheur auquel on a droit quand on s'est aimé. Tout ce que j'ai pensé et désiré s'est donc accompli, mon cher Rimbaud, et pour vous comme pour moi, il vaut mieux qu'il en soit ainsi qu'autrement. Mais, dites-moi, le bonheur que vous donne Madame d'Anglure est donc bien grand et bien nouveau, pour que vous n'alliez plus chez personne et pour que vous ayez presque cessé de venir chez moi, qui suis, comme vous le savez, votre ami, et à qui vous avez juré que, quoi qu'il arrive, nous ne nous brouillerons jamais. On raconte que vous vous consacrez à Madame d'Anglure avec un abandon de dévouement plus grand encore que dans les premiers moments de cette intimité qui édifie les cœurs fidèles. Moi, je réponds à cela que Madame d'Anglure est souffrante, ce qui rehausse le mérite de votre dévouement. Cependant, si cette souffrance n'est pas de nature à empêcher Madame d'Anglure de sortir, et que ce ne soit pas une jalousie, bien aveugle sans doute, qui l'éloigne de sa confidente d'autrefois, je voudrais bien la voir à dîner avec vous lundi prochain. Je viens de lui écrire un mot à ce sujet. Tâchez de me l'amener, mon cher Rimbaud, car je n'entends point séparer, fût-ce pour un moment, ce que Dieu a si bien uni. Bérengère. Faut-il ajouter que la lecture de ce persiflage fit à monsieur de Maulévrier un effet pareil à ces soufflets donnés par Suzanne, qui comblait de bonheur Figaro. Il se crut à la veille du triomphe. Il se jura bien que ce dîner auquel l'invitait la marquise serait comme le dernier coup de canon qui terminerait un si long siège. Il alla trouver madame d'Anglure, déterminée à la traîner de force à ce dîner, qui lui offrait une si belle occasion de jeter la marquise, déjà trahie par sa lettre, pensait-il, tout à fait hors d'elle-même. Hélas, il n'eut point à en venir à cette extrémité avec la comtesse. Il n'eut pas même à faire la moindre diplomatie pour la mener à accepter l'invitation de madame de Gèvres. Avait-elle une autre volonté que la sienne? N'obéissait-elle pas à tous ses caprices? Et d'ailleurs, elle en qui monsieur de Maulévrier ne parvenait jamais à maîtriser toutes les inquiétudes, n'avait-elle pas cet affreux besoin des cœurs passionnés de se placer en face de la réalité qui tue et de rencontrer la désolante certitude qu'elle craignait et qu'elle avait déjà cherchée sans la trouver? Ils allèrent donc au dîner de madame de Gèvres. C'était, comme tout ce qui venait de cette femme, d'un goût tout à la fois noble et simple. Une piquante réunion des hommes spirituels qui étaient le plus assidus chez elle et des femmes qui laissaient parfois le monde pour y venir. La marquise de Gèvres avait une réputation si bien établie de maîtresse de maison incomparable que les femmes les plus intelligentes et les plus vouées au culte de la grâce aimaient à étudier la royale manière avec laquelle elle faisait les honneurs d'un salon dont elle avait diminué l'étendue et qui ne s'ouvrait plus que pour quelques privilégiés. Ce jour-là, quels que fussent ses sentiments intérieurs et la pâleur profonde de son teint et une fatigue autour des yeux qui ne lui était pas ordinaire, semblait confirmer les idées de monsieur de Maulévrier. Elle se maintint au niveau d'une réputation qui ne pouvait plus grandir. Elle fut gaie, vive, agaçante autant que dans ses jours les plus splendides. Et ce ne fut que plus tard, et vers la fin de la soirée, que, comme une guerrière lasse qui désagrafe sa chlamide, elle apparut, sinon à tous, du moins à monsieur de Maulévrier, dans la vérité de son âme, masquée si souvent avec son esprit. En acceptant l'invitation de la marquise, madame d'Anglure avait voulu soutenir une lutte contre la terrible rivale qu'elle se supposait. Un reste d'orgueil insensé, comme en ont parfois les femmes qui furent belles et que le désespoir de n'être plus aimée pousse à tout, lui souffla qu'elle était défiée, qu'il fallait combattre de ressources, de beauté, d'artifice. Dût-elle pour sa part en mourir? Elle se rejeta avec fureur à toutes les inventions d'une toilette qui devait relever sa beauté dépérie. Elle improvisa, en fait de parure, un véritable chant du cygne. Mais, aveuglée par l'exaspération de ses sentiments, elle ne vit pas que ses efforts se retournaient contre elle, et que la femme, passée, faisait tache au sein des légers tissus qui se plissaient et ondulaient autour d'un corps à moitié brisé et dont il cherchait en vain les contours. Elle mit une robe d'une coupe divine, une de ces robes blanches qui avaient été inventées pour elle dans le temps où elle ne craignait pas la comparaison des mousselines les plus diaphanes avec la finesse et la transparence de sa peau. Crânerie vraiment digne de pitié. Elle, qui n'était plus que touchante, osait ce qui ne sied qu'aux plus belles, tant l'amour auquel elle s'attachait avec la rage des âmes sacrifiées l'empêchait de se voir et de se juger. Mais, telle qu'elle fut, monsieur de Maulévrier afficha pour elle, sous les yeux même de la marquise, un sentiment si dominateur, il lui rendit un tel hommage, il l'entoura de soins si tendrement inquiets et si marqués, que bientôt elle perdit ses défiances et qu'elle sentit un incroyable bonheur lui venir. Pour la première fois, l'homme du monde oublia que le monde le regardait et agit avec l'oubli des passions vraies. Monsieur de Maulévrier attira sur lui l'attention. La comtesse, qui, comme tous les êtres sans puissance de calcul, se livrait aux sensations d'une nature aisément entraînée, perdit peu à peu son air de victime. L'orgueil et l'amour satisfait lui relevèrent le front, ouvrirent ses lèvres à tous les sourires et firent flamber ses yeux éteints. Elle devint aimable, de cette amabilité tout en bienveillance qu'ont les femmes qui manquent d'idées et qui sont riches en sentiments. Plus la soirée s'avança, plus cette femme, qui jouissait avec tant de profondeur des préférences publiques de son amant, rayonna du bonheur qui la foudroyait. À force d'expression, elle reconquit presque sa beauté. Mais, par un contraste qui dut frapper à la fin les yeux les moins observateurs, à mesure que les félicités de cœur de Madame d'Anglure ravivaient ses manières et transfiguraient ses traits mornes, la marquise perdait de son animation habituelle, du feu roulant de sa répartie, et jusque de l'éclat fulgurant de sa beauté. On eût dit un singulier déplacement de la vie dans ces deux femmes, et que la chaleur et la flamme passaient de la torche éblouissante au pâle flambeau menacé de mourir. Avec quel intérêt haletant Monsieur de Maulévrier suivait ce changement dont il était cause, ces distractions d'un esprit toujours si présent. Pendant qu'il semblait n'être occupé que de Madame d'Anglure, au milieu des groupes du salon et de ces causeries éparpillées qu'elle avait mises en train et pendant quelque temps soutenues, la marquise s'était retirée à l'écart sur un canapé où nulle femme ne se trouvait alors. Elle était là, pâle et sombre, sous les larges bandes de velours d'un pourpre foncé qu'elle avait noué dans ses cheveux. Le sourire vague, les poses appesanties, l'air passionné et, par rareté, presque idéal. Certes, ceux qui la virent dans cette attitude et avec cette physionomie durent y lire une influence de l'amour montré à Madame d'Anglure par Monsieur de Maulévrier. Il est évident que l'accablement la prenait, cette forte femme, qu'elle était à bout, qu'elle n'en pouvait plus. Le regard de Madame d'Anglure, qui la fixait de l'autre extrémité du salon, ne s'y trompa pas. Ce regard doux et humide se sécha et devint tout à coup implacablement moqueur. Monsieur de Maulévrier, qui le surprit, se retourna avec une joie vers celle à qui il était adressé, comprenant sans doute que l'instinct de la femme jalouse et triomphante en savait encore plus que lui, et lui garantissait la défaite qu'il attendait depuis si longtemps. Sûr des tortures morales de la marquise, lu par lui dans ce regard de panthère, parti comme l'éclair de ses suaves prunelles de velours gris, il se leva transporté, interrompant sa phrase commencée à Madame d'Anglure, pensant qu'enfin la marquise avait trouvé le fond de l'abîme et qu'elle ne descendrait pas plus bas pour lui échapper. Il vint donc s'asseoir près d'elle, en chancelant, avec le vertige de la victoire, et d'une voix mal contenue lui dit à l'oreille, avec l'assurance d'un homme qui a tout deviné, « Qu'avez-vous donc pour être si triste, Bérengère ?»« Ah ! » fit-elle en le regardant avec deux yeux désespérés. « On dit que la jalousie peut mener à l'amour, et je n'avais plus que cette ressource. Je vous ai repoussée dans les bras de Madame d'Anglure pour voir si je n'en souffrirais pas, et si l'amour ne sortirait pas pour moi de cette douleur. Eh bien, je vous vois, depuis 2 heures, montrer un amour fou à Madame d'Anglure, et je n'en ai pas été émue une seule fois. C'est le fond de l'abîme, comme vous voyez, » ajouta-t-elle avec un horrible égarement de sourire. Ils s'étaient rencontrés dans cette pensée, mais, hélas, ce n'était pas le fond de l'abîme comme l'avait entendu Monsieur de Maulévrier.